RMC, les grandes gueules.
On va s'intéresser à une lettre ouverte publiée par un syndicat de police. Le syndicat de police, c'est le syndicat Alliance. Et Alliance dresse un tableau noir de l'avenir pour notre pays. Il dit que si jamais on ne fait rien, s'il n'y a pas un sursaut d'autorité à tout point de vue, notre pays tombera dans le chaos, l'insurrection et l'anarchie.
Oui, c'est un texte qui est signé par le secrétaire général du syndicat lui-même avec son adjoint. Ils décrivent tous les deux une France gangrénée par l'ensauvagement et la brutalisation au sein duquel deux populations vivent face à face, les honnêtes citoyens, les braves gens et ceux qui leur pourrissent la vie, la délinquance, les voyous. Alors les mots choisis sont très forts. C'est un syndicat Alliance qui se fait souvent remarquer justement parce qu'il est assez choc, classé à droite. Le syndicat demande un sursaut d'autorité républicaine pour éviter le chaos. Il pointe du doigt la justice française, accusée d'être laxiste. Les policiers ne veulent plus de cette politique du laxisme. Lorsque l'un d'entre nous est traîné sur plusieurs mètres, l'auteur écope de 35 heures de travaux d'intérêt généraux. Et donc, ils interpellent directement les magistrats. Expliquez-nous, expliquez-vous, expliquez aux citoyens. Est-ce que vous êtes d'accord? Est-ce que vous partagez ce constat sombre? Est-ce qu'effectivement, la France est au bord du chaos si on ne fait rien?
Chaos, insurrection, anarchie, 32-16 pour agir avec les GG. Étienne ?
Bah, écoute, le syndicat Alliance, il n'est pas classé à droite. Il est classé depuis 2020 à l'extrême droite.
Par qui ?
Donc, bah, c'est ce qu'on lit quand on va sur Alliance et qu'on lit le Wikipédia d'Alliance. Je vous conseille tous d'y aller. Et donc, en fait, il fait de la politique, là, Alliance. C'est-à-dire qu'on sait très bien que le moyen de faire monter, on en a eu la preuve en Italie, mais pas qu'en Italie, le moyen que l'extrême droite arrive au pouvoir, et d'ailleurs quand elle est au pouvoir, on le voit en Italie, elle fait rien de plus que les autres, mais le moyen de faire monter au pouvoir l'extrême droite, c'est de créer et de donner le sentiment qu'on est dans un monde perdu, un monde du chaos, un monde où tout va mal. Je veux dire, c'est une très très vieille, un très très vieux système, et donc effectivement, je dis pas
y a rien
que,
de vrai
je dis
dans
pas
ce
que, mais non, bien sûr, je dis pas que rien n'est vrai. Je dis que c'est une, on peut toujours regarder cette vision. Comme moi, on me reproche de toujours ne parler que des problèmes d'inceste en France, avec un enfant sur 10 victime d'inceste, et on me dit mais toi tu ne penses qu'à ça. On peut effectivement toujours centrer, c'est le système d'ailleurs intellectuel, c'est-à-dire qu'on peut regarder de sa fenêtre, chacun regardant sa fenêtre, un phénomène social et un fait social, et dire et en déduire des choses. Donc eux regardent,
ils sont policiers, c'est ce qu'ils
regardent de leur fenêtre, et surtout, je le dis, ils font, et c'est normal, c'est leur boulot, ils font une forme de politique pour effectivement monter la tension de façon à ce que les gens...
Ah donc c'est délibéré.
Moi je pense que là c'est délibéré, bien sûr. Mais surtout au moment où on le fait, c'est-à-dire qu'il va y avoir des élections, c'est le moment de sauter un peu aussi sur le case. Moi je vous dis, je pense que des pays comme la France ont des systèmes de régulation interne extrêmement bien faits, extrêmement historiquement bien établis, qui permettront toujours de réguler, même s'il y a toute forme d'abus.
Étienne, ça fait 2 ou 3 ans qu'on se connaît, toi et moi, et je vais te poser une question très simple. Est-ce que moi, tu m'as pas rentré à quelqu'un d'extrême droite? Je pense pas, honnêtement.
Non.
D'accord. Alliance, tu me dis qu'elles sont d'extrême droite. Je suis désolé, dans ce qu'il a dit, je suis d'accord.
Bah oui, t'es vrai.
Je suis désolé. Bah, et pourtant, je suis pas un mec d'extrême droite.
Mais on peut être d'accord.
Dès que quelqu'un... Voilà, non mais... je suis un black box, merci, c'est gentil.
Skin, je sais pas.
Merci. C'est ma journée aujourd'hui, je sais pas, vendredi c'est midi ou comment ça se passe?
Excusez-moi,
c'est vendredi c'est midi, d'accord.
Vendredi c'est midi.
Non mais comme ça, moi je suis au courant.
Toi tu partages le constat d'Alliance.
Moi je suis pas un mec d'extrême droite. Ça serait quand même grave vu mon nom et mes origines. Je suis désolé de te dire. Dire comme quoi il y a des voyous, que la délinquance augmente, qu'il y a des voyous, que les gens en pâtissent, qu'il y a on est dans une société actuellement qui n'arrête pas de se massacrer entre elles, qu'il y a toujours des problèmes, qu'il y a toujours des manifestations, quand il y a des manifestations, elles vont dans tous les sens, que quand il y a des matchs de foot, ça va dans tous les sens, que quand il y a des vols, ça va dans tous les sens, que les gens ne sont pas en sécurité chez eux, qu'il y a des cambriolages qui sont maintenant devenus des cambriolages violents, où il y a
des homejacking,
enfin, à un moment, je suis désolé, Alliance, c'est un syndicat de police, mais malheureusement, et je te dis bien malheureusement, je ne peux que constater que leur lettre...
Mais là, ils vont loin, ils disent chaos, insurrection, anarchie,
leur lettre est une, mais en fait, quand il n'y a plus d'ordre, quand tu mets des mecs qui font... je te parle pas je vais être très honnête avec toi, je te parle pas des petits cons qui te volent un jean ou un truc comme ça, d'accord, c'est pas... Mais quand tu as des mecs qui te tuent des personnes et qui sortent un an, deux ans, trois ans après pour vice de procédure. Et on va en parler juste après. Mmh. On a un sujet justement sur ça juste après. Ou quand tu as des mecs qui sont en train de te braquer, des familles entières, qui te séquestrent des familles entières et que pour X raisons, ils sortent au bout de peu de temps. Ben, je suis désolé, tu crées l'insécurité. Parce qu'en fait, ces mecs-là, ils se disent... Allez, si je fais ça, au maximum, je vais prendre ça. Donc, j'ai pas grand-chose à perdre. De toute façon, vu ce que je peux gagner en contrepartie, bah, le jeu, on veut la chandelle. Et ben, c'est ça qui est dangereux. Et c'est ça ce que dénonce Alliance. Alliance se dit que s'il n'y a pas un sursaut, que s'il n'y a pas une fermeté des procédures de justice, et s'il n'y a pas justement une justice beaucoup plus dure envers, et il précise bien, envers les délinquants notoires, à ce moment-là, ça va être le chaos. Je suis désolé, on ne peut que partager ce constat.
Alors, pas Étienne, Mehdi le partage, vous nous dites au 32-16. Monsieur Frédéric Farah, tu partages aussi le constat?
Pas autant que ça, et puis en même temps, c'est un discours qui est... Enfin, juste plusieurs choses. Ce genre de lettres, c'est pas nouveau. Je rappelle, juin 1983, il y a deux policiers qui sont tués dans le 9e, donc ça crée une émotion dans la police. Et à l'époque, qu'est-ce que disent les policiers? Demandent la démission de Badinter, sifflent le ministère de l'Intérieur qui est de fer, et expliquent que la fin de la loi anti-casseurs, la fin des quartiers de haute sécurité en prison, etc. La justice est laxiste, elle est du côté finalement de la délinquance. Donc on va dire que ce discours que la justice n'en fait pas assez, etc., ça a 40 ans dans la vue et régulièrement il y a ce genre de trucs. Donc, ce genre de discours n'a rien de neuf, finalement, je veux dire. Après, il y a un fait, il y a des faits, et ensuite, il y a après une interprétation. Est-ce que quand on regarde les chiffres de la délinquance, est-ce que ça augmente, atteinte à personne, etc.
Ça augmente.
Il y a, dans les derniers chiffres, ça augmente.
Si, si.
Ça augmente.
Oui, les derniers chiffres, mais avant, ça augmentait. Oui,
mais là, ça augmente.
Non,
mais
c'est factuel. La criminalité a diminué.
Mais c'est factuel, les derniers chiffres ne sont pas bons.
Oui, c'est
mais
c'est
Gérald Darmanin, c'est les chiffres publiés par Gérald Darmanin.
Mais est-ce que je dis le contraire? Non. Ce que je dis. Est-ce que ça augmente? Oui, plus 15% pour les atteintes à personne et ainsi de suite. Tous les chiffres augmentent. J'ai les tableaux sous les yeux. Je vais pas dire que ça augmente pas. De 2022, ça a augmenté par rapport à 2021, voilà. Et ainsi de suite. Donc là-dessus, je ne vais pas le nier parce que...
Donc ce n'est pas seulement un sentiment d'insécurité, c'est une insécurité.
Soit on prend ces chiffres et au moins on crée une discussion autour de ces chiffres et on les accepte, soit on dit ces chiffres sont bidonnés, bon alors on ne parle de rien. Je suis d'accord. Moi, ce qui me gêne après, c'est la suite, quoi. C'est-à-dire l'insurrection,
le chaos et l'anarchie.
Voilà. C'est là où je m'éloigne du truc. C'est-à-dire que peut-être quand même il faut raison garder, nous sommes dans des sociétés qui historiquement par rapport à ce qu'elles ont été sont moins violentes, et chaque fois qu'il y a un retour de la violence elles apparaissent évidemment moins violentes. Pourquoi je dis ça? Non mais elles sont moins honnêtement, je veux dire, quand on regarde dans l'histoire, nos sociétés,
c'est sûr qu'au Moyen Âge c'était plus violent.
Même dans les années 70 d'ailleurs, je suis d'accord avec toi. Et c'est par rapport à d'autres sociétés dans le monde,
au type de la criminalité, on parle.
Voilà. Mais par rapport à d'autres sociétés dans le monde, je veux dire qu'ils connaissent des degrés de violence,
comme les États-Unis.
On peut prendre des exemples concrets.
Oui,
on peut. Pour l'année 2023.
Oui.
Qu'est-ce qu'on a vécu cet été?
Oui,
mais on a vécu des émeutes. J'ai pas souvenir qu'il y avait des émeutes dans les années 70. Alors peut-être
la violence. En 68, il y a eu toutes les villages.
C'était des manifestations sociales. C'était pas des.
Et là, c'était peut-être une manifestation sociale
cet été. Bon, je sais pas.
Il y a eu une interprétation.
C'est pas visiblement ce qu'on a révélé quand on a interrogé les gens qui ont fait les émeutes. Ils n'étaient pas dans les manifestations sociales. Ils étaient plutôt dans l'opportunité d'aller casser et d'aller piller des magasins. Donc on a vécu les émeutes. Ensuite, deux ans avant, on a vécu quoi? Les gilets jaunes, c'était extrêmement violent, c'était même insurrectionnel. Souviens-toi ce qui s'est passé.
Ils voulaient aller sur l'Élysée, ils voulaient marcher sur l'Élysée.
Mais c'est pas la même chose, les gilets jaunes avec
mais c'est des scènes de violence.
Oui,
mais j'ai pas de souvenir qu'en les années 70, on est des gens qui étaient à 300 mètres de l'Élysée et qui voulaient aller prendre Macron et le pendre, sans doute. J'ai pas souvenir ça, que Georges Pompidou, Valéry Giscard d'Estaing étaient menacés. Donc moi, quand on m'explique, parce que c'est un discours qu'on entend souvent, oui, mais tu comprends, les années 70, alors effectivement, il y avait peut-être certains faits de délinquance qui existent plus aujourd'hui, mais je pense que les Français se sentent moins en sécurité aujourd'hui que dans les années 70.
Oui,
non, mais interrogeons nos parents et nos grands-parents.
Non, toi, personnellement, Frédéric.
T'es pas tranquille aujourd'hui?
Mais qui est tranquille aujourd'hui? Mais tu peux plus porter de montre tranquillement dehors? Non mais on va se dire les choses. On peut plus sortir comme on veut. Le soir quand tu rentres chez toi, t'es obligé de regarder derrière toi parce qu'on sait jamais ce qui peut être derrière toi. Quand tu vois, il y a des mecs qui se sont fait quand même braquer dans des restaurants pour leur montre en plein Paris, en plein Saint-Germain. Les gars, je sais pas si vous en rendez compte. Vous lisez Le Parisien, vous lisez... Non mais, à un moment, il n'y a plus de sécurité directe. Ça veut dire que t'as des gangs... T'as des gangs de gamins de 17 ans ou de 18 ans qui sont spécialistes dans, dans les roulottes de monde, dans les roulottes de voitures, dans les trucs comme qui ne risquent rien parce qu'au bout de 48, 72 heures, ils sont libérés parce que justement, c'est des mineurs.
Mehdi,
donc,
attends,
excuse-moi, attends, mais il y a 10 ans ou 15 ans de ça, il y a 10 ans ou 15 ans de ça, tu te sentais quand même un peu plus en sécurité que maintenant.
Je peux te dire que j'ai suivi en étant éducateur, j'ai travaillé dans le métro, j'ai travaillé partout et avec des population qui précisément vivait dans le métro beaucoup dans les années 80 en particulier puis après dans les années 90, c'est un truc qui a toujours existé. J'ai connu ça de très très près, des groupes de gamins de 12-13 ans qui piquaient les montres, etc. Alors c'est vrai que les montres à 50 000, il y en avait peut-être moins, mais en tout cas des
la délinquance des mineurs est pas plus importante aujourd'hui.
Délinquance des mineurs,
on n'a pas un problème avec les délinquants mineurs,
mais je dis pas que,
entre 16 ans et 18
entre dire qu'il n'y a pas de problème, il y a des gros problèmes. Je peux te dire, en tant qu'éducateur, pour travaillé avec des mineurs depuis toujours, il y a toujours eu des problèmes de mineurs délinquants.
Non, mais cette ultra-violence, elle est plus forte chez les mineurs aujourd'hui,
c'est beaucoup plus.
Étienne et Frédéric, c'est beaucoup plus hard aujourd'hui.
On est surtout très au courant de tout ce qui se passe.
C'est beaucoup plus violent. C'est beaucoup plus.
Tu peux pas nier ça. Tu peux pas nier qu'on est
blessé aujourd'hui avec une agression qu'il y a 20 ans ou 30 ans.
Je veux savoir si les choses discuter avec les GG, avec les grandes gueules.
Sinon, on se met des œillères.
Est-ce que vous êtes d'accord avec ce que dit Alliance aujourd'hui? La France est au bord du chaos, de la
surréaction. Malheureusement, on peut pas ne pas être d'accord.
Et de l'anarchie. Sauf s'il y a un sursaut d'autorité, ça peut éviter tout ça. Tout de suite au 32-16.
RMC, 9h midi, les grandes gueules. Alain Marchal, Olivier Truchot.
Et dans les GG, dans les grandes gueules, avec Étienne Liebig, Frédéric Farah et avec Mehdi Ghezard, on évoque la lettre du syndicat de police Alliance qui raconte le syndicat de police Alliance qu'aujourd'hui, ils font un constat en tant que policiers très noirs du pays. Et ils disent s'il n'y a pas un sursaut d'autorité, eh bien, on aura un affrontement entre honnêtes citoyens, braves gens et ceux qui leur pourrissent la vie. Et le pays tombera dans le chaos, l'insurrection et l'anarchie. Est-ce que vous êtes d'accord? C'est Noam qui est avec nous, appelle de Villeurbanne. Bonjour Noam.
Oui, bonjour les GG.
Vous êtes d'accord avec ce
bonjour
constat?
Bonjour Noam.
Bah en fait, oui, je suis d'accord avec le constat, mis à part que, la guerre civile, je pense que c'est un peu exagéré. Mais le constat sur les violences qu'il y a, sur les peines qui sont un petit peu, qui sont minimes même, les peines qui sont minimes et les peines encourues, je suis un petit peu comme le disait Mehdi, un peu dans la même position que lui, c'est que le constat, il est clair et c'est une réalité.
Oui, c'est pas par rapport.
C'est-à-dire que vous voulez des peines sévères, vous, c'est ça en fait, Noam.
Moi en fait, j'ai mon expérience personnelle. Moi, faut savoir que bon, aujourd'hui j'ai 35 ans, j'ai un peu plus de maturité, mais il faut savoir que dans ma jeunesse, j'étais, on va dire,
vous avez fait des bêtises.
Voilà, un jeune assez turbulent.
Oui.
Et moi.
Mais on avait peur de la police, nous.
Pardon.
On avait peur de la police, nous, Noam, quand on était jeunes. On a à peu près le même âge.
En fait, peur de la police. Moi, à mon sens, non. Mais je vais vous expliquer. Moi, ce qui s'est passé, c'est que à ma majorité, je venais d'avoir 18 ans et 2 mois, j'ai fait un vol par effraction. J'ai commis un vol par effraction. Donc, mais c'était une tentative parce que moi, la lumière s'est allumée de la maison où je voulais rentrer. Et nous, à l'époque, on n'allait pas dans l'ultra-violence. Ça veut dire, il y a quelqu'un au domicile, on fuit.
On n'y va pas, oui.
Voilà, aujourd'hui, c'est autre chose. Les jeunes d'aujourd'hui, c'est, il y a quelqu'un, je rentre et je séquestre. Et ça, franchement, c'est intolérable, impardonnable.
Je ne sais pas si vous avez entendu le nouveau procureur de Marseille ce matin sur RMC, Nicolas Bessone, qui était très inquiet parce qu'il dit, par exemple, à Marseille, les trafiquants sont de plus en plus jeunes. Sur les points de deal, on a un phénomène de jobber, c'est-à-dire que c'est des jeunes qui sont recrutés sur toute la France, ce sont des jeunes souvent mineurs. Et on constate la même chose sur les tueurs, c'est-à-dire que les tueurs, et on voit les règlements de compte à Marseille, employés, eh bien, il y a de plus en plus de mineurs ça, c'est quelque chose qu'on a observé en Italie, dans les années 80-90 et qui est en train d'arriver en France.
Ouais, aux États-Unis.
Oui. Légalisons le cannabis.
Non, mais en fait, ça c'est un autre sujet parce que là, je parle vraiment des délits, pas des crimes. C'est vraiment, moi, j'étais pas franchement un criminel, hein. Je faisais des bêtises, je prenais quelques euros à droite, à gauche. Mais par contre, moi, la chance que j'ai eue, c'est ce que je voulais vous dire, c'est que moi, lors de ma première bêtise étant majeur, c'est-à-dire ce que je vous expliquais en amont, moi, j'ai été directement puni sévèrement. C'est-à-dire un an de prison ferme. Et à l'époque, c'était pas les prisons de Lyon-Corbas, c'était à l'époque, c'était à Saint-Paul. C'est-à-dire les anciennes prisons
vétustes. Un enferme vous aviez pris pour tentative.
J'ai pris un enferme pour une tentative de vol.
Ouais. Tandis qu'aujourd'hui, on traîne un policier sur 150 mètres, on prend 35 heures de travail d'intérêt général.
Ça, c'est une honte.
Ouais, d'accord. Donc c'est ça qui. Voilà.
Je vous dis que le un enferme, il m'a fait réfléchir. Ouais. Et je vous garantis que je n'ai plus refait de prison.
Voilà, ben Noam, c'est la sévérité de la justice. C'est d'ailleurs ce que disent les policiers. Tant qu'on n'aura pas un sursaut d'autorité et qu'on n'aura pas une justice qui appliquera des peines sévères, aujourd'hui, oui, mais la délinquance a changé. Si elle est de plus en plus jeune, la justice va s'adapter aussi aujourd'hui.
Notre problème aujourd'hui, et Olivier, il faisait allusion directement, c'est le problème, effectivement, que l'essentiel de la délinquance qu'on voit, et y compris dans les émeutes, c'était de la part de mineurs. Or, c'est vrai que ni notre façon d'agir avec les mineurs, ni la répression, beaucoup de mineurs se foutent totalement de la répression. C'est-à-dire qu'on peut même dire que beaucoup de mineurs jouent avec la police et que plus il y a de police, plus il y a de jeux qui s'opèrent. Donc, en fait, tous les moyens de répression qu'on met en place pour les adultes et qui sont nécessaires, et peut-être il faut encore y aller plus fort, je suis d'accord, allons-y plus fort, avec les mômes, ça ne marche pas.
Si.
Et donc, ils nous mettent dans une situation où il faut qu'on invente des nouvelles procédures d'action. C'est vrai que les mineurs, je trouve, par rapport à des crimes commis par des mineurs, ne sont pas condamnés à la hauteur des majeurs.
Etienne.
Et donc, effectivement, il y a là un décalage qui devient insupportable dans la mesure où la délinquance a évolué.
Etienne, il y a un problème. Dans la lettre, il parle d'autorité. L'autorité, c'est pas forcément l'autorité de l'État, c'est l'autorité des parents. Je recite le procureur de Marseille, Nicolas Bessonne, qui dit: ces jeunes sont à l'image de notre société. Ce sont très souvent des profils avec des tranches de vie très compliquées. Souvent, il n'y a pas de père. L'absence de père est très importante. Ils sont dans l'immédiateté, une perte complète de valeur. Donc, j'incrimine pas seulement l'État ou la justice qui serait pas, mais je pense qu'il faut revenir à des choses simples, hein. C'est qu'il faut ses enfants soient élevés, soient éduqués. Alors je dis pas que les mères seules, parce qu'il y a des mères seules qui se battent et qui sont admirables, mais quand même, où sont les pères? Je veux dire, à un moment donné, il faut quand même interroger pourquoi ces enfants grandissent sans père.
Il y a un père
sans repère.
Souvent le week-end.
Alors après, on nous explique qu'aujourd'hui, le père ne doit plus incarner l'autorité parce que tout se vaut, la maman, le papa, etc. Il y a aussi ce discours, qui fait que on a du mal à s'y retrouver.
À Noam d'avoir été avec nous, Frédéric, et puis ensuite on écoutera Hugo au 32-16. Frédéric.
Mais si on reprend la lettre. La lettre, elle est intéressante. Enfin, ce que dit le procureur, c'est plus intéressant encore que la lettre, parce que au moins il présente la réalité dans sa globalité.
C'est pas un syndicaliste.
Ouais.
Il aurait même plutôt intérêt à calmer les choses.
Oui, mais c'est pour ça que je trouve que c'est intéressant qu'on pointe sur des choses essentielles. Sur tant qu'on n'aura pas vraiment posé les vraies questions sur la famille, sur la question d'une société qui valorise effectivement l'immédiateté, une société et qui en plus tient un discours que l'avenir soit rempli que de périls.
Oui.
Je veux dire, on vit dans une société qui nous dit demain la terre va nous exploser à la figure, demain il y a du terrorisme. Donc on invite les gens d'être dans un présentisme, c'est-à-dire la plus grande crise qui affecte nos sociétés, c'est la crise de l'avenir. C'est-à-dire qu'au lieu de représenter la société comme un ensemble de projets, on la représente que comme un ensemble de risques. Donc on dit, maintenant, il faut que tu survives. Il faut que ça soit la loi du plus fort, que tu t'imposes au moment où c'est, parce que le futur, il n'y en a pas. Et donc, tant qu'on ne travaille pas sur les représentations, sur la société, sur la famille, la réponse carcérale ne sera qu'imparfaite. Oui. La réponse policière ne sera qu'imparfaite.
Sauf que regarde,
c'est une réponse globale.
Non, voilà. Regarde, 90%, le sondage Elab pour BFM TV. 90% des Français estiment qu'on va aller vers l'affrontement. 80% des Français plus 10 estiment qu'aujourd'hui, l'insécurité qui est là, c'est l'affaire de tous et ça peut tomber sur tout le monde. Aujourd'hui, quels sont les derniers exemples? Olivier partait des émeutes de mai dernier, mais souviens-toi ce qui s'est passé avant. Qu'est-ce qu'on voit? On voit des policiers lorsqu'ils sont en intervention qui se font tabasser. Ouais. qui prennent des tirs de mortier dans la figure, dont on met les noms.
Le refus
aujourd'hui,
de c'est devenu un sport national.
Dans les cages d'escalier. Qu'est-ce qu'on a? On a Sokaina qui est en train d'étudier dans sa chambre et qui prend une rafale de Kalachnikov qui meurt.
Petit aussi, on a un petit,
ça, il y avait pas ça. On a le petit Fayed, on a le petit Fayed, qui pisse 20.
Il y avait pas
de ça. On a ce monsieur qui dort chez lui tranquillement à Dijon, qui prend une rafale de Kalachnikov. La France n'a jamais été confrontée à ça. C'est pour ça qu'aujourd'hui,
il y a une brutalisation et un ensauvagement de la société.
C'est l'américanisation de la société, effectivement. Et avec, comme le dit le procureur, des gamins qui sont de plus en plus jeunes. Et donc toi, qu'est-ce que... Ben, t'as la trouille, comme le dit Mehdi. Et c'est logique d'avoir la trouille. Et de sur quoi tu comptes quand t'as la trouille? Alors, tu peux dire que tu peux compter sur l'autorité des parents, mais tu comptes surtout sur la police.
Alain,
et t'as pas envie que les policiers se fassent caillasser et soient obligés de reculer quand
il y a un autre problème, c'est que normalement, je parle même pas des journalistes, mais parlons des hommes politiques. Normalement, le politique doit sortir de l'émotion. Ce qu'on nous a appris avec notamment le gaullisme, c'est que la capacité du politique dans son ensemble, c'est de non pas d'être dans l'émotion lui-même, mais d'être capable d'analyse. De faire des analyses, comme on le faisait jusque dans les années 90-2000. À partir d'un moment, on est devenu, les politiques et les journalistes, mais les politiques sont devenus exactement comme les citoyens, c'est-à-dire ils n'ont plus aucune capacité d'analyse des phénomènes, mais ne jouent que sur l'émotion générale. Et du coup, ils rajoutent encore à ce système, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, ou quand il se passe un truc à Dubaï, on a l'impression que ça s'est passé en bas de chez toi, de ton escalier. On a un système de globalisation du monde qui fait que tout crime qui se passe...
Mais même sans parler de la globalisation du monde, maire de Romans-sur-Isère qui vient raconter ce qui se passe dans le quartier, aujourd'hui elle est menacée de décapitation.
Personne ne nie que justement, cette violence-là, cette menace de violence, évolué, par exemple, tu ne peux pas la détacher de ce qui se passe quand on sort de studio ici et qu'on nous menace ou qu'on nous insulte en permanence parce qu'on a juste pris une position. Je veux dire, moi, je le dis, les gens qui aujourd'hui donnent des leçons de morale au monde entier sur les questions de violence et qui te disent on va tuer ta mère est une salope, elle va crever juste quand tu sors du studio et qui eux se drapent en disant toute cette violence qu'il y a dans cette société, c'est horrible. Mais qu'est-ce qu'ils font
Ils font exactement la même chose.
Alors,
Hugo, en fait,
c'est tout un système global.
Hugo,
de violence.
Bonjour.
Mehdi, t'es bien placé pour savoir ce que t'as pris dans la gueule ces derniers temps.
Bonjour Hugo.
Dans la gueule. Bonjour.
Alors, est-ce que vous êtes d'accord, la France risque de tomber dans le chaos, l'insurrection et l'anarchie, Hugo?
Bonjour à tout le plateau. Oui, allô.
Bonjour Hugo. Qu'est-ce que vous en dites?
Écoutez, moi, je sais pas. J'écoute attentivement Étienne Lédig. J'ai l'impression à l'écouter, je reprends juste la dernière phrase, donc du coup l'ensauvagement ou ce sentiment d'insécurité que je partage et que nous sommes bon nombre à partager, finalement c'est lié aux réseaux sociaux, aux médias qui médiatisent trop les affaires qui se passent trop loin de chez nous. Donc en gros, tant que ça se passe pas dans la rue, si ça se passe ailleurs et qu'on n'est pas au courant, tout va bien. Je suis pas tout à fait de cet avis. Moi, je crois qu'un ensauvagement, je crois qu'Alliance est un syndicat que je connais un petit peu de par ma famille. C'est d'abord un syndicat qui parle à ses syndiqués.
Oui.
Donc forcément qu'ils sont toujours en concurrence avec d'autres syndicats au sein de la police. Ils sont majoritaires, certes, mais il y a quand même des luttes au sein de la police au niveau des syndicats qui est importante. Donc ils parlent à ses syndiqués. Mais je partage néanmoins cet avis et je trouve regrettable que, encore une fois, pardon Étienne, mais lorsque on parle d'alliance, tout de suite votre réponse au début des grandes gueules, c'est de dire ah mais ça c'est un syndicat d'extrême droite. Comme si on devrait dire alors puisque c'est d'extrême droite, on n'écoute pas la parole.
Non, au contraire. Mais on considère quand même qu'il fait de la politique. On a le droit de le penser, non?
Mais on a le droit de le penser, mais ils font de la politique comme tous les syndicats. Mais moi,
mais
ce que je voudrais qu'on fasse.
Mais je dis pas le contraire.
Mais c'est pas parce qu'ils font de la politique et qu'ils sont de droite ou d'extrême droite, qu'on ne peut pas écouter le fond,
mais bien
et qu'on ne peut pas le partager plus ou moins. Vous savez, moi je suis enseignant des syndicats, alors je ne suis pas syndiqué, mais j'écoute les syndicats au sein de l'éducation nationale, je me mets souvent, je ne suis pas souvent d'accord avec eux pour la grande majorité, néanmoins ça ne m'empêche pas de les écouter, de dire parfois qu'ils ont raison.
Mais ils font de la politique aussi.
Et oui, mais alors...
Bah, c'est pas d'ailleurs un gros mot, faire la
belle. Non, mais absolument, j'ai pas dit que c'était un gros mot, j'ai dit qu'ils faisaient de la politique.
Allez-y Hugo.
On passera par quoi? Moi je crois encore, pardonnez-moi, que notre avenir passe par les politiques. Parce que sinon, effectivement, qu'on va finir à avoir deux affrontements. Qui est-ce qui peut nier aujourd'hui que la délinquance juvénile, la délinquance, la petite délinquance, on appelait ça petite délinquance à l'époque, est une délinquance quotidienne qui peut parfois s'avérer être gravissime. Je ne parle même pas des forces de l'ordre qui sont bien sûr souvent attaquées, très peu défendues. Mais même moi, citoyen honnête, j'ai peur effectivement de l'avenir de mes enfants. Je crois effectivement qu'on est dans une société où les règles sont de plus en plus contournées, où la justice, où l'autorité des enseignants, des policiers, qui que vous voulez, et de moins en de l'éducateur dans un club de foot ou de rugby, et
oui,
de l'arbitre.
C'est le sentiment que ça se délite à tous les niveaux aujourd'hui, quoi, en fait, c'est ça.
À tous les niveaux, et la délinquance est de plus en plus présente. Et quand j'entends le premier auditeur, ok, c'était pas bien grave, mais je l'entendais dire, voilà, moi je volais quelques personnes, bon, j'ai fait qu'une tentative d'effraction. Bon, moi j'ai 33 ans, pardon, j'ai jamais volé personne, à part peut-être ma grand-mère de 2 euros pour aller m'acheter 3 bonbons quand j'avais 6 ans, et j'ai jamais tenté d'aller chez quelqu'un lorsque je n'étais pas convié. Et c'est de plus en plus le cas, sauf que ce monsieur, quand il a vu la lumière, il est parti. Aujourd'hui, ces jeunes qui n'ont pas peur, qui n'ont plus peur, qui sont parfois armés, mais pour se défendre et éviter tout problème, attaque et le drame peut arriver. Et le drame arrive
Hugo,
de côté comme de l'autre.
Hugo, c'est vous qui aurez conclu notre discussion dans les GG. Hugo des Hauts-de-Seine, Boulogne-Billancourt, Mehdi, c'est un voisin à toi. Peut-être bonjour, que vous passerez Hugo voir Mehdi un de ces jours. Vous irez
à son garage.
Avec grand plaisir.
Salut Hugo, enseignant dans les Hauts-de-Seine. Un sursaut d'autorité pour éviter le chaos. La France qui risque de tomber dans le chaos, l'insurrection et l'anarchie. On a posé la question sur les réseaux sociaux. Est-ce que vous êtes d'accord avec le syndicat Alliance? D'accord, 86%. 86,4%. On en reparlera tout à l'heure. Tiens,
je fais pas de corollaire pour le concours grande gueule, mais c'est vrai que faut être grande gueule.
Corollaire seul, de cette discussion que nous avons eue autour de l'inquiétude du syndicat de police Alliance dans la dernière partie des GG. Tiens, tu vois un exemple concret dont on discutera ensemble. Maxime Vacan, 27 ans, à Mézières-les-Metz, qui a été tué. Le suspect âgé de 17 ans au moment des faits, il vient d'être libéré sous contrôle judiciaire parce qu'il présentait des garanties de parcours de réinsertion. On en parlera tout à l'heure à 10h. Dans un instant, on s'en fout pas.
C'est 9h midi, les grandes gueules. Alain Marchal, Olivier Truchot.
Les GG, les grandes gueules en direct sur RMC, RMC Story. Aujourd'hui, notre chef d'entreprise, Mehdi Guézard, est avec nous. Nous sommes le super sportif, Mehdi Guézard.
Ah bah oui.
Paris
ah bah oui.
2024, il peut être prêt. Hein.
C'est notre athlète. C'est notre athlète. La médaille d'or des GG, c'est moi qui vais l'avoir. Ne vous inquiétez pas.
Nous sommes avec Frédéric Farah, notre professeur d'économie et boxeur.
Exactement.
Oui. Et puis nous sommes avec Étienne Libig, notre éducateur. Saxophoniste, c'est bien. C'est un effort.
Très peu. Ah bon? Très peu. C'est très peu de souffle.
On me dit que pour souffler dans un tube, t'es le meilleur. C'est ce qu'on vient de me dire.
Très peu de souffle. Contrairement à ce que les gens croient, il n'y a pas de souffle, en fait. C'est la concentration du souffle, mais il y a très peu d'air expiré.
Et puis, on a la plus grande cavalière parmi nous.
C'est l'heure de la retrouver, notre cavalière émérite. Anaïs Saïd.
Voilà.
Allez.
RMC, les grandes gueules.
On s'en fout.
Je peux pas te dire à quel point je m'en fous.
Pardonnez-moi, mais je m'en fous.
Ou on s'en fout pas.
Chipou, mon cheval,
il va très très bien, il est magnifique.
Tu vas le voir ce week-end?
Non, mais il faudrait peut-être que j'aille le voir, le pauvre.
Il est peut-être mort.
Il a son poil d'hiver, là.
C'est quoi un poil d'hiver pour
les chevaux, là, vu qu'il est au pré, effectivement, il y a l'hiver, il y a une petite couche de poil supplémentaire pour qu'il ait chaud. Poil qui perd au printemps, et il a un poil ras-le-corps. L'hiver, l'été, et puis voilà, c'est intéressant.
Étienne disait nous aussi, on a les poils.
Les GG.
Vas-y.
Incorrigible, Elisabeth Borne, la première ministre, a encore vapoté à l'Assemblée hier. Troisième fois qu'elle est prise en flagrant délit. C'est plus fort qu'elle, hein. Et cela a passablement agacé la députée LFI, Caroline Fiat, qui l'a sèchement recadrée. Écoutez.
Pensez-vous réellement, Madame la première ministre, sincèrement, alors que le ministre de la Santé hier, pour des raisons de santé publique, a annoncé qu'il ne fallait plus fumer sur les plages, aux abords des bâtiments publics. Sincèrement, ici, nous écrivons la loi. On n'est pas au-dessus des lois. Vapoter dans cette enceinte, pendant que je suis en train de vous parler, c'est un mépris total.
Vapotage, oui, au lendemain de l'annonce du plan anti-tabac, est-ce qu'on s'en fout?
Et anti-vapotage.
Et anti-vapotage aussi. Est-ce qu'on s'en fout pas, Mehdi, Frédéric?
On s'en fout pas.
Étienne.
On s'en fout pas, et c'est même...
Mehdi.
Ça prouve encore une fois la déconnexion des politiques par rapport au peuple. Fais ce que je dis, mais je ne fais pas ce que moi je t'ordonne de faire, tout simplement. C'est d'une horreur, mais c'est énervant. C'est un manque de respect. T'imagines qu'on nous fait chier, on nous a dit comme quoi on n'allait pas fumer... les lieux publics, la plage, autour des plages, autour des parcs. Mais t'as la chef du gouvernement. Attendez.
On n'a pas le droit de vapoter au travail.
Non, mais excusez-moi, la chef du gouvernement.
Chez nous, les salariés qui vont vapoter, ils sortent dehors.
Voilà, qui se tape sa cigarette électronique en plein milieu de la salle où est voté comme quoi il ne faut pas fumer. Enfin, c'est quand même assez complexe. Mmh. C'est que. Si c'est pas un manque de respect,
rappel au règlement.
Ouais, non, mais si c'est pas un manque de respect, c'est un jeu d'emmerde politique.
Je vais vous dire, il y a un vrai problème dans cette. Moi, je pense que il faut favoriser le vapotage. Il faut favoriser, ça reste encore le meilleur moyen d'arrêter de fumer. Le vapotage, c'est de la vapeur d'eau qui sort. Laisse-moi terminer. C'est de la vapeur d'eau. Je pense qu'il y a une énorme connerie de la part de tout le monde de vouloir.
C'est de la santé.
De vouloir interdire le vapotage. Il y a des gens qui sont dépendants de la nicotine, qui sont dépendants de la cigarette. Je trouve que pour on a vu, tous les chiffres, il y a toutes les preuves que le vapotage est le meilleur moyen d'arrêter de fumer et de ralentir la fumée et d'avoir moins de maladies pulmonaires. Je trouve ça complètement con de l'interdire.
Il faut le dire, mise à la santé,
absolument. Borne. N'importe. Alors bon, maintenant, elle ne respecte pas les règles. C'est pas bien.
Bah, mais ceci dit,
moi, je la condamne pas. Je trouve qu'il faut revenir sur cette histoire de condamnation. Quand on a condamné le fait de la cigarette,
c'est pas la question.
On n'a pas condamné la question de l'addiction.
C'est hors sujet.
J'ai compris. J'en profite pour dire que c'est
d'interdire le vapotage. Frédéric Farah.
Bah moi je suis absolument d'accord avec Mehdi. Vraiment, c'est-à-dire
je
que
de la gueule du
non mais ça m'insupporte et en plus ça m'insupporte d'autant plus que la Macronie, sa spécialité, ça fait la leçon à la terre entière.
Oui, c'est ça.
Et avec une dose de mépris qui dépasse l'entendement ordinaire, ces gens-là se sont toujours en train d'expliquer aux autres la morale, la vie, ce qu'il faut faire, et elle, Madame Borne, pense qu'elle est au-dessus de tout le reste avec toujours ces tendances aussi. Mais je n'en peux plus de ces gens-là.
Si moi je fume dans un établissement, enfin dans un lieu public, parc, même à l'extérieur, c'est très important à savoir, je me prends une amende.
Mais je sais.
La nana fume à l'intérieur de l'endroit où ils disent combien l'amende je vais payer.
Voilà.
Enfin, c'est un truc de dingue quand même.
Mais
c'est un truc de dingue.
C'est interdit, mais c'est illogique.
Les GG, carton d'audience hier pour le très attendu complément d'enquête consacré à Cyril Hanouna sur France 2. 3,03 millions de téléspectateurs, c'est un record historique pour le magazine. C'est presque deux fois plus que le précédent record. Hein. C'était pour le numéro consacré à Patrick Poivre d'Arvor qui avait fait 1,72 millions de téléspectateurs. Bref, Hanouna, ça marche. Est-ce qu'on s'en fout ou pas, Mehdi?
Franchement, je m'en tamponne, mais d'une force.
Étienne.
Je m'entends pas parce que je l'ai pas vu.
Il paraît.
Bon, bah,
trois qui on s'en fout. Allez. On enchaîne.
Ah si, ce serait grave de
parler. On est le vendredi 1er décembre. Les GG.
Vas-y.
Vendredi 1er décembre, ça passe très vite et l'angoisse qui monte chez certains Français qui vont avoir du mal à faire plaisir à leurs proches sous le sapin. Selon un sondage IFOP, plus d'un tiers des sondés, 37% exactement, redoutent de ne pas pouvoir offrir de cadeaux cette année. Est-ce qu'on s'en fout ou pas, Étienne?
Non, on s'en fout pas.
Frédéric.
Vraiment pas.
Mehdi.
On s'en fout pas du tout.
Frédéric.
Je pense que c'est l'angoisse pouvoir d'achat qui est toujours là. Hein. Je veux dire, souvenez-vous, il y a eu un autre sondage qui disait que certains Français disaient qu'il en manquait 588 euros pour terminer le mois. Aujourd'hui, pour des tas de Français, ça devient difficile, pas simplement les cadeaux, pour pouvoir assurer aussi leurs factures. Donc il y a vraiment, ça va au-delà de Noël. Moi, je suis vraiment inquiet sur le tassement, pour ne pas dire plus, du niveau de vie de plus en plus de la catégorie de la population. Et donc c'est très inquiétant.
C'est une violence.
Et la pauvreté, on l'a vu dans le dernier bulletin de l'INSEE, elle augmente, l'intensité de la pauvreté augmente. Je crois que les signaux n'arrêtent pas de se multiplier sur vraiment une inquiétude liée au pouvoir d'achat, à la situation des gens, et ne pas pouvoir offrir des cadeaux, toute la symbolique qui va avec.
C'est une violence aussi.
Mais c'est une forme de violence, évidemment, économique et sociale.
Bien sûr.
Je trouve que c'est inquiétant et je suis convaincu que c'est pas prêt de s'inverser.
Alors, moi, je vais pas redire ce qu'a dit Frédéric. Juste, la question, moi, je trouve que Noël devrait être consacré aux enfants qu'on n'a pas à se culpabiliser en permanence sur la question des cadeaux entre adultes. Je trouve que cette mode, qui est purement une mode commerciale, stupide, qui nous a été imposée par un système dont on peut tout à fait s'échapper, il suffit de se mettre d'accord entre nous et de dire bon, c'est les mômes qui doivent fêter Noël, on laisse tomber les cadeaux entre adultes, parce que ça devient un budget complètement délirant. Et donc, on fait des fêtes, on est à 12, à 13, tu dois offrir 11 cadeaux, mais c'est n'importe quoi. Donc, je trouve qu'on doit, se le dire, on est des adultes, on se le dit, bon, bah, écoute, on va consacrer aux enfants, on laisse tomber
dans
le reste.
Beaucoup de familles,
il n'y a pas de honte à le faire,
hein. Dans beaucoup de familles, on fait que des cadeaux pour les enfants. Voilà.
Mais bien sûr, bien sûr. On nous a imposé ce système, on a le droit de le refuser.
Qui nous l'a imposé?
Le système commercial, c'est-à-dire, tu sais, c'est comme le Black Friday. On t'impose par des systèmes à la fois publicitaires, des systèmes qui nous viennent de l'étranger, qui sont imposés chez nous, des systèmes commerciaux très forts, aujourd'hui encore surmultipliés par les réseaux sociaux, et on a du mal à s'échapper.
Ça fait très longtemps quand même.
Mais oui, ça fait très longtemps. Mais ça augmente, tu vois.
Vieux que le Black Friday.
Et cette histoire du passage des cadeaux aux enfants, aux cadeaux des adultes, on se retrouve avec des sapins, avec 300 cadeaux, tu vas être complètement fou. En plus,
tu gagnes ta vie.
Orange dans un coin.
Un nouveau t-shirt noir.
Peut-être un t-shirt noir avec marqué un truc dessus.
GG
de l'année.
Mais comment tu forces?
Justement,
c'est ouf, quoi.
Puisque Étienne nous tend la perche. La GG de l'année, c'est à partir de la semaine prochaine que vous pourrez voter pour élire la grande gueule de l'année, ma chère Anaïs.
À partir de lundi,
le principe.
Eh bien, vous allez pouvoir voter sur rmc.fr pour votre GG préféré parmi nos 19 grandes gueules. Mehdi Guézard, Barbara Lefebvre, Didier Giraud, Frédéric Farah, Joël Dagostieri, Bruno Ponce, Flora Gebali, Charles Consigny, Sarah Salman, Jean-Baptiste Jebari. Bref, vous retrouverez toute la liste sur rmc.fr. Vous voterez pour la grande gueule de l'année 2023. Qui a la plus grande gueule, en fait?
Pas sur l'opinion des gens, c'est sur sa capacité à être grande gueule. Hein, je rappelle.
Exactement.
Hein.
Mais comment il rappelle les règles? Et vraiment, on sent qu'il veut coster l'affaire.
Comme je fais jamais plus de 13% vis-à-vis de l'opinion et que je suis toujours archi minoritaire, il faut bien que je dise que c'est pas sur l'opinion.
C'est sur la personnalité.
Mais c'est sur la personnalité.
Personnalité.
Il y a un petit peu aussi de compétences en musique, m'a-t-on dit. C'est en plus. Les grandes gueules qui seraient compétente musicalement.
On demandera
un petit plus
à ceux qui nous suivent, qui nous écoutent, de voter pour la GG de l'année.
En fait,
c'est-à-dire,
vous votez selon vos propres critères, en fait.
Votre chouchou.
Bien sûr.
Peut-être que vous trouvez que Mehdi Guézard, c'est un beau gosse, vous avez envie de voter pour lui, tu vois.
Depuis deux jours.
C'est un culturiste.
La personnalité, la pertinence des propos, le look, la bocossitude, effectivement.
La bocossitude est dans la merde, vraiment.
On est à la limite. C'est génial, ça. Mais là, on le voit, il est heureux, Mehdi, parce qu'on sent que la salle de sport est en train de faire la différence.
Vous allez
remarquer qu'il quand même, il a repris le sport deux jours avant la grande gueule de l'année.
Pour sa campagne.
Il s'est entré en campagne.
François Hollande, c'est ça.
C'est pour vous alerter, vous sensibiliser. De toutes les manières, c'est à partir de lundi que vous pourrez voter sur notre site internet rmc.fr. Et si vous voulez,
vous êtes vraiment des salauds.
Oui, parce qu'on le chambre depuis 9h ce matin.
Et ils les utilisent tous en plus.
Et alors Mehdi, il fait du sport en doudoune, en demi-doudoune et en pull de toute façon.
Vous remarquez qu'il n'y a jamais personne dans la salle de sport. Donc en fait, c'est la nuit.
Elle est à lui, la salle de sport.
Dans un instant, avec les GG, avec les grandes gueules, suite du programme. Et c'est avec vous, bien sûr, au 32-16 que ça se passe. On évoquera ce qui va se passer à Paris pour les Jeux Olympiques 2024. On va avoir des zones rouges et bleues et même des QR codes pour pouvoir circuler. Est-ce que ces JO vont nous pourrir la vie? 32-16 pour en parler avec les grandes gueules.
RMC jusqu'à midi. Les grandes gueules.